Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, naufrage d'une baleinière à la rivière Kwa au Mai Ndombe. Plus de 80 personnes ont disparu et une centaine de rescapés. L'incident est survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier sur cette rivière située dans le territoire de Mouchi. Le commissaire fluvial de Mouchi qui s'est rendu sur les lieux affirme que cette baleinière qui transportait plusieurs personnes s'est cassée après une panne des moteurs. Investiture ce mercredi à 2h du matin du gouvernement souminois. Les députés nationaux ont adopté les programmes du gouvernement après 8h de débat général et la réplique de la première ministre. Même si tous les députés ont été favorables à l'investiture de ces gouvernements, ils se sont plutôt montrés rigoureux, sceptiques et mécontents tant à la composition du gouvernement qu'à la matérialisation de ces programmes d'action du gouvernement. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu institue une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province a été gouvernée en bien ou en mal de 2019 à 2024. L'invité de ce midi, c'est bien le président de la commission, le député provincial Maître Népangui. Il nous parle des missions de cette structure dans ce journal. Bonjour, ce journal part de la province du Mai Ndombe. Plus de 80 personnes portées disparues et une centaine de rescapés. C'est le bilan d'un naufrage survenu dans la nuit d'hier, lundi à ce mardi, dans la nuit de lundi à ce mardi, sur la rivière Kwa, dans le territoire de Mouchi. Le commissaire fluvial de Mouchi, Ren Maker, qui s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation, indique qu'il s'agit de la baleinière La Sainteté qui s'est rendue à Kinshasa. Elle s'est cassée après une panne de moteur. Cette embarcation en bois transportait plusieurs personnes, dont les habitants de la ville de Bandundu, de la cité Mouchi et d'autres contrées. Irène Mbomaluzolo.
Les sources concordantes parlent d'une baleinière qui a quitté la cité de Mouchi dans la soirée de lundi à destination de Kinshasa, transportant à son bord plus de 270 passagers et des marchandises. Le naufrage s'est produit vers 23h, non loin du village Lediba, à près de 70 km de la cité de Mouchi, chef-lieu du territoire portant le même nom de la province du Mai Ndombe, indique les mêmes sources. Le commissaire fluvial de Mouchi, qui fait partie de l'équipe déployée sur les lieux du drame par le comité local de sécurité, rapporte qu'au total 185 personnes sont sorties vivantes. Parmi les causes principales de cet accident, René Maker note entre autres la navigation nocturne.
C'était la baleinière au nom de la Sainteté. À bord, ils étaient au nombre de 271. Alors, les disparus sont en général au nombre de 86. Ceux qui sont retrouvés sont au nombre de 185. Ils naviguaient pendant la nuit. Alors, ils ont commis une panne moteur. Suite à cette panne, la baleinière a été cognée le bordure. Alors, le tenon du carré de la baleinière était cassé.
Toujours selon René Maker, l'embarcation chavirée se trouve complètement dans l'eau pour le moment. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Ouvrons à présent ce chapitre consacré aux réactions après investiture ce mercredi à 2h du matin du gouvernement souminois. Les députés nationaux ont adopté les programmes du gouvernement après 8h de débat général et la réplique de la première ministre Judith Souminois Touluka. Débuté à 17h, les débats sur les budgets s'est étendu au-delà des milieux. Après la réplique de la première ministre, 397 députés sur 405 présents ont voté pour l'investiture du gouvernement et 8 autres se sont abstenus. Même si tous ont été favorables à l'investiture de ces gouvernements, les députés se sont montrés rigoureux, sceptiques et mécontents tant à la composition du gouvernement qu'à la matérialisation de ces programmes d'action du gouvernement. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole en premier, le député Paul Chilumbu de l'UDPS exige que la première ministre veille à ne pas construire des ouvrages à usage unique, comme c'est le cas actuellement. Christian Mwando d'Ensemble pour la République s'oppose même à la composition de ce gouvernement.
Ce gouvernement est inutilement éléphantesque, battant en brèche toutes les promesses de réduction du train de vie de l'État. avec ses 50 membres nommés de manière cavalière comme dans un partage inégal de butin.
Cathy Sakombi du MLC soutient les actions prévues dont la mise en œuvre devrait prévenir toute discrimination.
Il n'est pas bon de procéder par exemple à la démolition des maisons des pauvres habitants en laissant les riches situés dans les mêmes zones. Cela entraîne la rupture d'égalité, l'injustice et la discrimination.
Claude Missaret de l'UNC insiste sur la nécessité de l'autosuffisance alimentaire.
C'est une honte pour un grand pays comme la RDC de dépendre de petits pays comme le Rwanda sur le plan alimentaire. Qui peut comprendre que la RDC, avec ses forêts, n'est pas à mesure de produire même les cure-dents?
Tous les autres députés plaident pour que la pacification du pays, la construction des routes et la relance de l'agriculture soient les priorités de ce gouvernement.
De même, les programmes d'action présentés par la première ministre divisent la classe politique congolaise. Si les députés nationaux Passis à Pamba, membres de l'Union sacrée, restent optimistes quant à la matérialisation de ces programmes et à la réalisation du budget envisagé, Prince Epengé, l'un des porte-parole de la plateforme de l'opposition Lamuka, estime que les contextes dans lesquels ce gouvernement a été composé et les systèmes politiques mis en place par Félix Tshisekedi constituent déjà un échec pour cette équipe. Le peuple congolais ne peut rien attendre de bon, déclare-t-il. Les réactions des uns et des autres avec vous, Grâce Hamzati.
Pour les députés Passis à Pamba, ces programmes fondés sur 6 piliers est ambitieux et rencontre les attentes du peuple. Toutefois, il insiste sur la lutte contre la corruption.
Lorsqu'on dit qu'on va créer d'emplois, lorsqu'on dit qu'on va faire face aux défis sécuritaires, il faut mobiliser les recettes. C'est possible. Avec la volonté exprimée par le président de la République, on est très vite passé d'un budget de 4 milliards jusqu'à 11 milliards. Et aujourd'hui, on a budgétisé 16 milliards avec le projet de finances de 2023, tout comme 2024.
Pessimiste, Prince Epengé qualifie ce programme de plagiat. Selon lui, c'est du déjà entendu. Il pense que rien ne va changer avec ce régime qui, toujours d'après lui, est caractérisé par les détournements à outrance des deniers publics.
C'est de la poudre de pèlerin-pimpin. Madame n'a pas les moyens de sa politique. Madame risque de passer tout son temps à arbitrer les conflits et les rivalités. Les hommes n'ont pas changé. Les choses ne peuvent pas changer. Ne faites pas les choses de la même manière et dans les mêmes conditions et ça entraîne un résultat différent.
De son côté, le professeur Jeff Mudimbi des sciences politiques à l'université de Lubumbashi indique que le programme du gouvernement Soumino est porteur d'espoir. Cependant, il plaide pour qu'un bon toilettage s'efface dans le système politique congolais.
Pour sa part, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, salue l'investiture du gouvernement souminois et souhaite la mise en œuvre de son programme pour le bien-être du peuple congolais. C'est confiant ce mercredi à Radio Kapi, le secrétaire général de cette structure de l'Église catholique invite la population à accompagner ce gouvernement, mais tout en restant vigilante face à tout éventuel dérapage qu'il faudra dénoncer. On écoute Monseigneur Donatien Cholet, joint par Grâce Hamzati.
Que ce gouvernement se mette effectivement en œuvre pour le changement tant attendu par le peuple congolais. Le président de la République, dans son discours après les élections, s'était engagé à corriger les erreurs passées. Ces erreurs ne seront pas corrigées sans l'implication du gouvernement. Donc, nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement et, comme Église, nous avons l'obligation de les accompagner pour la réussite de leur mission. Concrètement, notre commission épiscopale justice et paix fera une sorte de monitoring de la mise en œuvre du programme de gouvernement pour aider le gouvernement aussi à évaluer progressivement son programme. Et je crois que le peuple congolais en bénéficiera. Il n'y a pas de programme parfait, mais ce programme, à le lire, s'il est mis en application comme tel, il y aura certainement des retombées sur la vie du peuple congolais. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Et il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué.
Dans le même chapitre, au Maniema, les avis restent partagés quant à l'investiture du gouvernement souminois. Au micro de Radio Kapi, la population du Maniema, qui, certaines, saluent sa mise en place, certaines d'autres souhaitent voir ces gouvernements investis travailler beaucoup plus pour le social du peuple congolais. Écoutons-les dans ces vox pop réalisés par Florence Kizalunga.
Ce que j'attends, c'est de voir les programmes tels qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale être scrupuleusement respecté. Ça me réjouit d'attendre que la Première ministre va s'engager avec l'ensemble de son gouvernement dans la création de l'emploi au profit des jeunes que nous sommes. Nous sommes nombreux et qui avons déjà fini nos études, qui restons au chômage.
Aujourd'hui, le gouvernement, il est déjà là. Je crois que l'important est d'aller trop vite. Mais ce que nous craignons en République démocratique du Congo, c'est de voir un gouvernement qui arrive, qui met la tabula rasa au gouvernement qui venait de lui succéder. Donc ça, c'est une politique congolaise qu'il faut bannir. Donc moi, je crois qu'il faut capitaliser les acquis de Samalo Kondé et commencer par là et aller de l'avant. Ça sera quelque chose de très important que de venir commencer à zéro, abandonner tous les projets commencés par Samalo Kondé et chercher à initier d'autres projets peut-être similaires alors qu'il y avait déjà des projets qui étaient déjà entrepris.
Ce dont nous avons besoin, c'est la matérialisation de ce projet. Bien qu'étant une femme, nous entendons beaucoup d'elle.
Dans la République démocratique du Congo, c'est toujours la théorie qui prime la pratique. Donc nous demandons la mise en pratique.
Au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale vient d'instituer une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province a été gouvernée en bien ou en mal de 2019 à 2024. La commission a pour mission de réunir les preuves matérielles ou des témoignages sur la gouvernance de la province sous les règnes du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi et son vice Fiston Malago Kachekere. Jean Kassami décrit cette commission.
La commission porte le nom de son président, le député provincial Népangui José. La plénière charge à la commission d'enquêter objectivement sur la gestion financière et administrative de l'exécutif provincial sortant. Toutes les forces politiques représentées au sein de l'Assemblée provinciale font partie de la commission. Les députés membres ont 15 jours pour déposer les résultats de leur travail. Un communiqué diffusé à la radio invite toute personne disposant des éléments de preuve ou de témoignages sur la bonne ou mauvaise gestion financière et administrative de les faire parvenir au bureau de la commission sous pli fermé, du 10 jusqu'au 25 juin 2024. Ceux qui ne seront pas en mesure d'atteindre Bukavu dans les délais impartis sont priés de faire parvenir leurs preuves et d'autres éléments au moyen de téléphone suivant le mode WhatsApp en format PDF au numéro +243 973 442 944. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les combats se poursuivent ce mercredi entre l'armée et les rebelles du M23 dans le groupement de Kanyabayonga. C'est au nord de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon des sources sur place, ces affrontements sont concentrés entre Bulindi et Butalongola, à moins de 10 km de la cité de Kanyabayonga. Des personnes contactées affirment que des bombes continuent à être larguées depuis cette zone des combats. Ces engins font des victimes dans cette cité située au sud du territoire de Lubero. Parmi elles figurent les commandants de la police de Kishishe. Il a été tué par balle la nuit dernière à Kanyachi, Kanyabayonga, où il était en déplacement. Plusieurs civils blessés sont aussi à déplorer. Rappelons que les combats dans cette zone sont à leur 17e jour, c'est mercredi. Plusieurs habitants continuent de déplacer leurs familles de Kanyabayonga vers d'autres contrées. Et puis, le centre Carter a lancé lundi dernier à Lubumbashi l'initiative Justice climatique et environnementale. Par cette initiative, le centre Carter plaide pour les droits des populations congolaises dans la transition énergétique mondiale. Au micro de Jean Gandou, Fabien Mayani, chef des programmes Droits humains et transition juste, donne d'amples détails sur cette initiative.
Le centre Carter a réadapté ses interventions dans le secteur extractif de la RDC pour s'assurer qu'il y ait un meilleur partage des richesses qui sont générées par les ressources extractives de la RDC, surtout les ressources qui participent à la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Donc le centre Carter entend travailler pour autonomiser davantage les populations congolaises, les équiper, les accompagner pour mieux comprendre tous ces enjeux-là et faire valoir leurs droits au bien-être, leurs droits à une adaptation climatique conséquente. Et aussi travailler avec le gouvernement congolais pour lui donner des conseils de façon que le gouvernement puisse mettre en place les bonnes politiques pour s'assurer que la transition mondiale vers les énergies vertes participe aussi au bien-être des populations congolaises. Et enfin, cette initiative entend travailler avec les secteurs privés et les acteurs internationaux qui sont sur toute la chaîne d'extraction ou d'utilisation des minerais de la RDC pour s'assurer que tous ces acteurs respectent les droits des populations congolaises, notamment le droit au bien-être, le droit à une adaptation au changement climatique.
Autre nouvelle, la remise des prix de la 6e édition du concours des dictées dénommé Écriture sans faute a eu lieu ce mardi à Kinshasa. Cette épreuve est organisée par la MONUSCO dans le cadre de son programme visant la promotion du multilinguisme. C'est en partenariat avec l'Association congolaise des femmes de presse, ACOFEP. Plusieurs écoles y ont pris part. Miradi Fouini nous donne d'autres détails.
Cette 6e édition a eu comme thème « Discours de haine et de désinformation ». Les 10 lauréats sont issus notamment du lycée technique de Matongé, du complexe scolaire Tyrannus de Mongafula et du groupe scolaire Les Petits Anges des Kingabois. Ils ont reçu des chèques, des bourses d'études, des manuels scolaires et des trophées. Mireille Zemingia, première à ce concours, remercie la MONUSCO et encourage ses autres camarades.
Je remercie la MONUSCO pour les autres. Ne puissent pas se décourager, la prochaine fois ils vont mieux faire.
Le troisième, Console du Ngangu, donne ses impressions et adresse un message à la MONUSCO.
Je suis heureux, j'ai gagné. J'ai eu l'échec de $250, un sac et un trophée. J'ai dit à la MONUSCO de continuer ce qu'ils ont en train de faire.
Sarah Yenga, un des parents, adresse cette demande.
Pour que les enfants maîtrisent cette langue, ils doivent l'apprendre. Ils doivent avoir des outils pour apprendre cette langue. Et déjà, avec cette gratuité de l'enseignement, c'est vrai, nous observons beaucoup de lacunes, mais qui peuvent être palliées par des appuis financiers, des bibliothèques, des salles de lecture, des jeux concours, quiz par exemple. Pourquoi pas une question pour un champion dans les écoles. Les fêtes au niveau local, régional et pourquoi pas au niveau national.
Pour les organisateurs, cette remise des prix est une manière de reconnaître les efforts des enfants et également de les pousser vers l'excellence.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, la situation des droits de l'homme ne cesse de s'aggraver. C'est le constat fait par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui, dans un communiqué publié fin mai, a demandé à Ouagadougou de diligenter des enquêtes concernant les exactions et massacres contre des populations civiles, des exactions commises par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité nationale.
L'invité.
L'Assemblée provinciale du Sud Kivu institue une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province a été gouvernée en bien ou en mal de 2019 à 2024. La commission a pour mission de réunir les preuves matérielles ou des témoignages sur la gouvernance de la province sous les règnes du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi et son vice-fiston Malago Kachekere. Notre invité, c'est bien le président de la commission, le député provincial Maître Népangui, interviewé par Jean Kassami.
Bonjour honorable. Nous sommes députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Mwenga.
Un communiqué est en train d'être diffusé sur les médias et dans les réseaux sociaux, invitant toute personne qui détiendrait de témoignages ou des éléments sur la bonne ou la mauvaise gouvernance de l'équipe sortante de bien vouloir se présenter avec ces données à l'Assemblée provinciale. Quel bureau on devrait contacter?
Les lieux où on doit déposer ces éléments de preuve, c'est ici à l'Assemblée provinciale, au bureau de la commission d'enquête du gouvernement provincial du Sud Kivu de 2019 à 2024. Donc les preuves peuvent être déposées ici, sous pli fermé, et nous allons les dépouiller et voir tout ce qui a été mis dedans.
Par qui la commission a-t-elle été instituée et quel est son objectif?
La commission a été instituée par la plénière. Comme dans la mission parlementaire, les députés ont deux missions, de légiférer et de contrôler. Nous sommes dans la phase où les députés ont estimé qu'il faut contrôler l'ancien gouvernement de 2019 à 2024. Et il a plu à mes pairs de m'élire comme président de cette commission. La commission est constituée de toutes les couches, tous les députés, selon toutes les forces politiques. De l'UNC, il y a de l'UDPS, il y a de l'AFDC, il y a des NOABC50. Il y a vraiment toutes les composantes politiques que forme l'Assemblée provinciale.
Quelle est la mission principale dévolue à la commission que vous chapeautez?
Pendant ce moment ici, je ne saurais pas être trop large, parce que pendant le moment de l'enquête, je suis soumis à tous les membres de la commission au devoir de réserve. Mais la mission, comme son intitulé, c'est une mission de contrôle. Et que les gens ne considèrent pas ça comme des chasses à l'homme ou on fouine dans le passé. Parce que l'objectif premier des députés, c'est de contrôler l'exécutif, les institutions provinciales, Alors nous sommes en train d'étudier, ça aide aussi l'équipe qui va venir de ne pas se comporter comme si c'est déjà un intérêt conquis, ils peuvent faire tout ce qui leur semble juste et bon. Donc ils doivent savoir que le contrôle parlementaire s'est fait a priori et a posteriori, avant et après. On ne peut contrôler ce qui est déjà fait, on ne peut pas contrôler ce qui viendra. Toute commission ne sera pas commission d'épargne, il y aura d'autres. Par le passé, il y a d'autres commissions qui ont enquêté les gouvernements, qui ont précédé les gouvernements passés. C'est dans cet angle-là que nous nous retrouvons.
C'est donc dans le sens de la bonne gouvernance.
Oui, c'est la bonne gouvernance. Que les gens n'interprètent pas ça comme s'il y a une personne que nous ciblons. Non, nous ne ciblons personne. C'est le système que nous sommes en train d'examiner. Du commun des mortels, aujourd'hui, on jette de l'opprobre aux dirigeants anciens. C'est une occasion que tout le monde qui juge à tort ou à raison d'amener de preuves. Il ne faut pas qu'on soit seulement le juge de la rue qui condamne par défaut. On ne doit pas jeter des pierres sur les anciens dirigeants. Motif, oh non, ils ont volé. Alors quiconque disposerait de preuves, c'est le moment. Et peut-être ça sera une façon aussi de blanchir ceux qui étaient là. Parce qu'à un moment donné, on a compris que un grand nombre, une grande opinion n'ont pas vraiment une très bonne image par rapport à tous ceux qui étaient là. Mais c'est une occasion. Donc personne ne puisse penser que nous sommes en train de faire des chasses à l'homme. C'est une façon de faire participer la population à l'enquête. Parce que nous, nous sommes les représentants du peuple et que le peuple aussi participe à cette action. Parce que nous ne sommes pas Dieu le Père pour deviner à quel point, et surtout que l'État imparti est si court. 15 jours, s'il faut enquêter ce qui a été fait pendant 5 ans, vous imaginez, on ne saura pas peut-être arriver au coin, et peut-être vous-même ici dans la poche, vous pouvez avoir une preuve de bonne gouvernance. Veuillez me le faire. Si vous avez une preuve de mauvaise gouvernance, veuillez aussi me le faire. C'est dans l'amour et par souci patriotique et de la bonne gouvernance.
Honorable Nempangui, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de Vos Nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Debs Vita, supervisée et coordonnée par Pele Kipela Mondo et Blaise Shindani Kambala. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie.